Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Bion à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 12 octobre 2023. Au Gabon, l'épouse du président déchu, Ali Bongo, incarcéré. L'ONU suspend des casques bleus en RDC et dénonce des abus sexuels. À Madagascar, la justice reporte la présidentielle d'une semaine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Tel Aviv pour exprimer la solidarité de Washington avec Israël après les attaques du Hamas et à éviter une escalade du conflit. Ici aux États-Unis, les républicains sans issue face à la paralysie du Congrès américain.
L'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a dit cette semaine qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat.
Je sais que beaucoup d'entre eux veulent me proposer, je leur ai dit de ne pas le faire.
Nous ferons le point sur la paralysie du Congrès dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Gabon, l'épouse de l'ex-président Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba, Valentin a été incarcérée à la prison centrale de Libreville. Elle était en résidence surveillée pour des détournements présumés de fonds publics depuis le coup d'État contre son époux. Les détails avec Nani Talani.
Sylvia Bongo Ondimba Valentin a été incarcérée provisoirement ce matin au terme d'une longue audition d'un juge d'instruction, a assuré son avocate, maître Gisèle Eyebekale. Elle a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours qui lui permettra de plaider la remise en liberté de sa cliente. L'ex-première dame a été inculpée de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux le 28 septembre. Elle est au cœur d'une enquête sur des détournements massifs d'argent public en compagnie de son fils, Noureddine Bongo Valentin, déjà incarcéré comme 6 de leurs proches, d'anciens responsables du cabinet présidentiel. Les militaires qui ont renversé M. Bongo disent soupçonner Sylvia et Noureddine Bongo d'avoir manipulé l'ex-président, victime des séquelles d'un AVC en 2018, et d'avoir été les vrais dirigeants de facto du pays au cours des 5 dernières années.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est prononcé ce jeudi en faveur de la prolongation d'un an de la surveillance de la situation au Burundi, malgré l'opposition de pays africains et de la Chine. Le Burundi s'est opposé à la résolution, sa représentante contestant la politisation des travaux et mécanismes du Conseil et accusant les pays à l'origine de la résolution de promouvoir des intérêts géopolitiques sous couvert de préoccupations des droits humains. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre de casques bleus soupçonnés de faute de conduite grave. Les précisions avec Deli Diko.
Des documents internes de la MONUSCO révèlent que 8 casques bleus déployés à Beni, dans l'est de la RDC, et appartenant au contingent sud-africain, ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu une semaine après, dans le cadre d'une affaire présumée d'exploitation sexuelle et de violence. Des mesures ont été prises, dont la suspension, la détention et le confinement des casques bleus concernés. Selon un rapport préliminaire, l'officier suspendu a intimidé et verbalement menacé des membres de l'ONU après l'arrestation de casques bleus pour fréquentation de maisons closes, avec de surcroît une tentative de fuite et une bagarre avec la police militaire de l'ONU. La MONUSCO dit condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies. Cette nouvelle affaire intervient alors que le gouvernement de la RDC demande le départ accéléré dès décembre de la force onusienne qu'il accuse, après 25 ans de présence, de ne pas être parvenu à mettre fin aux violences des groupes armés.
Les observateurs de l'Union européenne, de la Communauté d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et de l'Union africaine ont félicité aujourd'hui le Libéria pour la tenue pacifique des élections présidentielle et parlementaire mardi. La présidentielle oppose 20 candidats, dont le sortant Georges Weah et son principal opposant Joseph Bouaké, ancien vice-président de 2006 à 2018. Un second tour entre les deux candidats arrivés en tête est prévu début novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les avocats de l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko ont contesté aujourd'hui devant la justice à Ziguinchor sa radiation des listes électorales qui l'empêche d'être candidat à la présidentielle de 2024. Ses avocats soutiennent que leur client a été arrêté depuis sa condamnation de juin. Il doit être réjugé. Sa condamnation n'est pas définitive. Ils invoquent les textes en vigueur sur la contumace. La direction générale des élections a refusé récemment de délivrer au mandataire de M. Sonko les formulaires qui doivent servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature. Les avocats de M. Sonko ont introduit un recours contre ce refus, mais la Cour suprême l'a rejeté la semaine passée. Report du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar, initialement prévu le 9 novembre. Le scrutin a été reporté d'une semaine par la Haute Cour constitutionnelle suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation de l'opposition. Alexandrine Ollognon.
Le premier tour de l'élection présidentielle est reporté au 16 novembre 2023, selon la décision de la plus haute juridiction de la grande île de l'océan Indien. Le second tour est maintenu au 20 décembre, mais la campagne électorale, qui a officiellement débuté lundi dernier, est prolongée d'une semaine. 13 candidats, dont le président sortant Andre Rajoel, sont en lice. L'élection se prépare depuis plusieurs semaines, dans un climat qui ne cesse de se dégrader. L'opposition, dont la majorité est rassemblée dans une alliance baptisée le Collectif des 11, dénonce une machination du pouvoir pour favoriser Rajoel. Elle appelle quasi quotidiennement à manifester depuis le début du mois, mais ces rassemblements ont été empêchés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. L'Union européenne et les États-Unis ont affirmé le mois dernier suivre avec la plus grande vigilance la préparation du scrutin.
La mission des Nations Unies en Libye a appelé ce jeudi les rivaux politiques à s'entendre sur les lois électorales, objet de profonds désaccords, afin de pouvoir organiser des scrutins censés avoir lieu avant fin 2023 dans ce pays divisé. L'ONU a identifié 4 points de désaccord: l'obligation d'un second tour de la présidentielle, quels que soient les résultats du premier tour, la tenue des législatives uniquement si la présidentielle est un succès, la nomination d'un exécutif unifié pour organiser les élections et la nécessité d'inclure tous les Libyens, notamment les femmes, dans le processus électoral.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis seront toujours à vos côtés, déclaration du patron de la diplomatie américaine lors d'un voyage en Israël. Anthony Blinken est d'avis que les aspirations légitimes des Palestiniens ne sont pas représentées par le Hamas, que le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu a promis d'écraser comme le groupe djihadiste État islamique. M. Blinken est attendu au Qatar demain vendredi pour des discussions avec les dirigeants qataris au sujet du Hamas. Le point avec Eric Mandirakiza.
Monsieur Blinken a promis que les États-Unis soutiendraient toujours Israël. Vous êtes peut-être assez fort pour vous défendre seul, mais tant que les États-Unis existeront, vous n'aurez jamais à le faire, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe à Tel Aviv avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a cependant appelé à la retenue pour protéger les civils palestiniens, la guerre ayant déjà fait des milliers de morts des deux côtés du conflit. Pour sa part, Benjamin Netanyahou promet d'écraser, de détruire le Hamas qu'il compare au groupe État islamique. Il exhorte le monde à le traiter comme tel. À Gaza, où plus de 338 000 personnes ont été déplacées selon les Nations Unies, les bombardements se poursuivent. Un porte-parole de l'armée israélienne a expliqué que l'armée se préparait à une manœuvre terrestre, mais que rien n'a encore été décidé. La situation humanitaire deviendra très rapidement ingérable, selon Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR. Le Hamas détient plusieurs dizaines d'otages israéliens, étrangers et binationaux, qu'il menace d'exécuter. Selon un communiqué diffusé ce jeudi, le CICR est en contact avec le Hamas et les autorités israéliennes pour œuvrer à la libération de ces otages.
Les pays membres de l'OTAN ont exprimé ce jeudi au ministre israélien de la Défense leur solidarité après l'assaut lancé par le Hamas, mais ont également appelé le pays à réagir de manière proportionnée. Et puis le ministre taïwanais de la Défense a affirmé aujourd'hui que la Chine avait intensifié son intimidation militaire par des incursions toujours plus nombreuses d'avions de combat autour de l'île et en accélérant le déploiement de missiles balistiques. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
À Marrakech, au Maroc, où se tiennent depuis lundi les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la guerre entre Israël et le Hamas est devenue un sujet d'inquiétude. C'est un nouveau nuage dans un horizon déjà peu ensoleillé pour l'économie mondiale, a estimé ce jeudi la directrice générale du FMI. Dans la foulée de l'attaque du Hamas, le pétrole a bondi de 5 dollars avant de reculer légèrement les jours suivants, mais repartait à la hausse ce jeudi. La Zambie, qui était en négociation depuis 2 ans pour parvenir à un accord en vue de restructurer sa dette, a signé ce jeudi un protocole d'accord avec l'ensemble de ses créditeurs bilatéraux, s'est félicitée la directrice générale du FMI. Dans le centre des États-Unis, 8700 employés dans le site Ford du Kentucky ont cessé le travail mercredi à l'appel du syndicat UAW en réponse, selon l'organisation, au refus du constructeur automobile de faire davantage de concessions. Ces salariés d'une usine de Louisville sont venus grossir les rangs des effectifs déjà en grève au sein des 3 grands constructeurs automobiles américains Ford, General Motors et Chrysler pour les porter à près de 34 000. Le syndicat réclame 40% d'augmentation sur les 4 années de la nouvelle convention. Il cherche aussi à obtenir des garanties relatives à la transition des 3 constructeurs vers l'électrique qui va entraîner la fermeture de certains sites et l'ouverture de nouvelles usines.
Place maintenant au sport avec Nanit Elani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, tous les regards sont tournés vers le tirage au sort de la compétition la plus prestigieuse du football africain qui se tient au Parc des Expositions d'Abidjan à partir de 19h temps universel.
C'est vraiment l'une des plus grandes actualités du sport africain de ce jeudi. Les 24 équipes qualifiées pour ce grand rendez-vous sportif connaîtront enfin leurs adversaires et, in fine, leur parcours dans la prestigieuse compétition pour la 34e édition de la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les 6 groupes sont composés chacun de 4 équipes. La Confédération africaine de football, la CAF, a déjà dévoilé l'identité des 4 assistants qui procéderont au tirage au sort. Il s'agit des stars actuelles, le Sénégalais Sadio Mané et le Marocain Achraf Hakimi, et des anciennes gloires, l'Ivoirien Didier Drogba et le Nigérian John Obi Mikel. Après la cérémonie, Sadio Mané devra prendre l'avion sans tarder et se rendre en France où les Lions défieront le Cameroun lundi. Le Maroc jouera dimanche contre la Côte d'Ivoire, donc Hakimi pourra rester sur place.
Toujours la CAN 2023, les sélections africaines qualifiées pour cette grande rencontre sportive régionale qui débutera dans 3 mois entament leur préparation ce jeudi 12 octobre. 3 matchs amicaux sont au programme dans le cadre de la préparation des équipes.
Tout à fait. Ce jeudi, la Zambie, le Cameroun, l'Algérie et le Cap-Vert ouvrent le bal. À 21h temps universel, l'Égypte rencontrera la Zambie à Dubaï aux Émirats arabes unis. Et la Russie jouera contre le Cameroun à Moscou, la capitale russe. Puis à 23h en temps universel, l'Algérie croisera le fer avec le Cap-Vert à Constantine, en Algérie.
Natation au libre, les finales de Coupe du Monde déplacées d'Israël au Portugal.
Effectivement, la dernière manche de la Coupe du Monde de natation en eau libre, prévue début décembre, est déplacée d'Israël au Portugal en raison du conflit en cours en Israël, a annoncé ce jeudi la Fédération internationale de natation. L'épreuve, initialement programmée à Eilat, sur les rives de la mer Rouge, les 1er et 2 décembre, se déroulera finalement à Funchal, les 2 et 3 décembre. Le samedi 2 auront lieu les 10 km hommes et femmes et le dimanche 3, le relais mixte 3 x 1500 mètres. À l'issue de ces courses seront décernés les trophées aux vainqueurs de la Coupe du Monde 2023 de natation.
Page de sport VO Afrique signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté mercredi par 113 voix contre 99 pour nommer comme président le représentant Steve Scalise, mais leur faible majorité à la Chambre basse du Congrès et les divisions au sein de leur propre parti laissent planer l'incertitude sur ce choix. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès.
Le représentant Matt Gaetz, qui a forcé la destitution du président de la Chambre, Kevin McCarthy, la semaine dernière, salue le nouveau choix des républicains. Lors d'une réunion à huis clos mercredi, ils ont voté en faveur de Steve Scalise plutôt que du conservateur Jim Jordan. Le représentant Steve Scalise.
Nous voyons à quel point ce monde est dangereux et à quel point les choses peuvent changer si rapidement. Nous devons nous assurer d'envoyer un message au monde entier que la Chambre est fonctionnelle et s'occupe des affaires du peuple.
Tant que la Chambre n'a pas élu son président, le Congrès américain ne peut adopter aucune loi ni aucune aide à Israël ou à l'Ukraine. Michael McCaul, président de la Commission des affaires étrangères.
Le pays ne peut pas se le permettre. Les Américains n'en ont pas les moyens. Nous vivons actuellement une période dangereuse. Nous sommes potentiellement confrontés à 3 conflits mondiaux majeurs et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce poste vacant.
Le vote a été retardé alors que Steve Scalise s'efforçait de remporter les 217 voix nécessaires pour être élu. Il ne peut se permettre de perdre que 4 voix des républicains. L'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a dit cette semaine qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat.
Je sais que beaucoup d'entre eux veulent me proposer. Je leur ai dit de ne pas le faire.
Steve Scalise reste le favori. En 2017, il a été grièvement blessé par un homme armé qui a ouvert le feu sur des membres du Congrès s'entraînant pour leur match de baseball annuel. Cette année, il a annoncé avoir reçu un diagnostic de cancer du sang.
Au Togo, l'Assemblée nationale met en place une commission spéciale d'enquête sur l'utilisation des fonds Covid de l'année 2020. En février, un rapport d'audit de la Cour des comptes avait relevé de graves irrégularités dans la gestion des sommes allouées à la lutte contre la maladie par certains membres du gouvernement. Au sein de l'opinion, le doute persiste sur le bien fondé de la création de cette commission d'enquête, d'autant que les parlementaires avaient déjà accepté les explications des ministres indexés. De Lomé, la correspondance de Kossi Oussou.
C'est au cours d'une session de l'Assemblée nationale que Chantal Yawa-Tchegan, la présidente de l'institution, a fait l'annonce de la création de la commission spéciale d'information et d'enquête.
La commission spéciale sera chargée de désigner une mission d'information ou d'enquête en vue d'auditionner toutes les personnes qu'elle jugera utile d'entendre, particulièrement celles ayant eu des responsabilités dans la gestion de la COVID-19 en lien avec le rapport d'audit de la Cour des comptes. Nous recommandons à la commission de s'organiser pour avancer dans la mise en œuvre de cette mission que la plénière lui confie.
La commission d'enquête dispose de 45 jours pour déposer son rapport. Tout en se réjouissant de l'initiative prise par l'Assemblée nationale, c'est un sentiment de doute mais aussi d'espoir qui anime Pasteur Edo Kommi, le président du mouvement Martin Luther King, une organisation de la société société civile.
Ça vaut mieux que jamais l'annonce de la création au sein de l'Assemblée nationale togolaise d'une commission d'enquête sur la gestion des feux COVID-19 est accueillie comme une bonne nouvelle. Mais faut-il attendre que la fumée blanche sorte de cette commission et que les responsabilités soient situées? Personne ne se le dit.
L'activiste Emenefa Eklou est plus catégorique. Elle parle de diversion de l'Assemblée nationale.
Je crois qu'on se moque de nous. Quelles commissions vont-ils pouvoir mettre en place pour trancher sur la gestion de Covid? Cette Assemblée nationale est à la solde du régime et n'est donc pas indépendante. Je doute moins fort qu'ils soient capables de mener des enquêtes proprement dites pour donner raison au peuple et impliquer les vrais coupables qui ne sont que ceux qui sont au sommet du pouvoir.
Jean Tissi, ancien parlementaire de l'opposition, ne comprend pas le volte-face de l'Assemblée nationale.
Cet événement s'est passé. Tout le monde a crié. Les associations de consommateurs ont sorti des éléments palpables. Et contre tout ce contrôle citoyen de l'action publique, les gérants de cette situation sont allés faire un théâtre devant l'Assemblée qui les a applaudis. Et puis, patatras, quelques mois après, on dit que, ah, finalement, ce dossier mérite une enquête parlementaire. Tout ça jette du discrédit sur nos pays.
Un membre de la commission d'enquête parlementaire écrit qu'il ne sait pas où mènera cette mission, mais il trouve que le simple fait qu'elle existe est déjà un bon début. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Face à la progression des maladies non transmissibles sur le continent, notamment les AVC, cancer, affections respiratoires ou encore le diabète, ces maladies qui se développent en raison de différents facteurs comportementaux, tabagisme, sédentarité, sucre, malbouffe, des médecins sénégalais tirent la sonnette d'alarme. Le point avec notre correspondante Alison Fernandez.
Au centre hospitalier national universitaire de Fan à Dakar, voilà près de 4 décennies que le professeur Amadou Gallo Diop consulte des malades. Il est aujourd'hui chef du service neurologie et il s'inquiète de l'augmentation drastique du nombre d'accidents vasculaires cérébraux.
Ce qui est remarquable surtout, c'est que l'âge moyen des malades qui viennent pour accidents vasculaires cérébraux est en train de devenir de plus en plus jeune. Et ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant qui reflète une mauvaise hygiène de vie, notamment alimentaire, qui s'installe de plus en plus dans nos pays.
Sédentarité, tabagisme, malbouffe, alcool, pollution, le professeur Gallo Diop pointe particulièrement du doigt les produits importés, comme ces boissons gazeuses bon marché vendues aux enfants, ou encore les bouillons culinaires apparus dans les années 50 sur le continent, est désormais omniprésent dans les assiettes.
C'est un concentré de sel à des taux incroyables, enrichi de glutamate. Et le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur du système nerveux. Okay. Et d'autres ingrédients, et vous n'avez même pas la liste des ingrédients sur les étiquettes qu'on vend en Afrique.
Diabète, hypertension, AVC ou encore cancer, les maladies non transmissibles, longtemps associées à l'Occident, inquiètent désormais sur le continent. Elles étaient même au cœur du dernier forum Galien Afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Dakar. En 2022, ces maladies étaient responsables de 45% des décès au Sénégal, selon des chiffres du ministère de la Santé, causant plus de morts que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.
Nous avons un double fardeau. Le double fardeau des maladies infectieuses qui existent encore, bien qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations avec les vaccinations. Mais il y a aujourd'hui quelque chose qui inquiète, c'est la montée des maladies non transmissibles. Pas seulement le doublement, le triplement, parfois une multiplication par 5 en même pas 10 ans.
Les autorités sénégalaises s'apprêtent à mener la deuxième enquête nationale sur les maladies non transmissibles. Le but, connaître leur prévalence nationale et affiner la recherche sur les facteurs de risque. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Moyen-Orient en ébullition après l'attaque surprise du Hamas qui a fait des centaines de morts en Israël. L'État hébreu a riposté en pilonnant Gaza et en imposant un siège complet de ce territoire sous le contrôle du groupe militant palestinien. Les appels à la désescalade et au dialogue ne sont pas pour l'instant suivis d'effets sur le terrain. Comment en est-on arrivé là? Quels risques pour la région et le reste du monde? Comment mettre fin au conflit israélo-palestinien? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
En vue d'aider l'Afrique à atteindre les objectifs de développement durable, récemment mis en selle par la 78e Assemblée générale des Nations unies, des experts, des entreprises et des représentants des collectivités territoriales et l'association Je m'engage pour l'Afrique ont décidé d'unir leurs efforts pour repenser l'attractivité des villes secondaires africaines. Un ouvrage est né de leur réflexion intitulé « Nouvelle voie, les jeunes architectes des villes secondaires africaines de demain ». Pour en savoir davantage sur ce projet, j'ai joint à Paris Kevin Chanda, chercheur résident de l'association Je m'engage pour l'Afrique.
Le choix des villes secondaires est pertinent déjà parce qu'il vient répondre à des problèmes auxquels sont confrontées les grandes villes. Je parle ici de problèmes de logement, de problèmes de transport, de problèmes d'assainissement. Et donc, en s'intéressant aux villes secondaires, on apporte des solutions concrètes, vivantes et réelles pour permettre de décongestionner les grandes villes, pour que les villes secondaires soient non seulement plus intéressantes sur le plan de l'habitat, mais également sur le plan des nids et sur le plan de l'environnement.
Alors, les conclusions des 20 jeunes qui ont participé à la résidence JMA proposent une réflexion sur trois villes africaines. Anéo au Togo, Abomey-Calavi au Bénin et Bendiri au Maroc. Quelles solutions ont suggéré l'exploitation des données sur ces villes?
Alors, l'exploitation des données ont suggéré trois solutions en effet. En ce qui concerne Anéo au Togo, c'est la mise en place d'un centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme en partenariat avec la mairie et le groupe hôtelier Onomo. En ce qui concerne Abomey-Calavi, c'est la mise en place d'un système de gestion de transport, d'une part, et d'autre part, un centre de formation, un centre de financement pour améliorer le niveau de vie des habitants. Et en ce qui concerne Benguerir au Maroc, c'est, n'est-ce pas, la mise en place d'un dialogue concerté entre le pouvoir public, les entreprises privées et la société civile.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les solutions citoyennes proposées pour développer donc l'attractivité des villes africaines?
Il est important d'avoir pour l'Afrique une vision, parce que c'est la vision qui prend la grandeur des infrastructures et surtout la grandeur des projets. Capable de quitter d'un point A, qui est la situation actuelle, pour aller vers un point B, qui est une meilleure situation, de sorte que lorsqu'on parle de villes du monde, telles que je viens de les citer, on puisse aussi retrouver Yaoundé, Abidjan, Monrovia, Addis Abeba.
Alors, comment se fera le financement de ces villes?
C'est le projet qui apporte de l'argent, c'est pas de l'argent qui apporte le projet. Parce que quand on pense que c'est l'argent qui apporte le projet, là, on se trouve déjà bloqué. Et donc, il faut penser projet, et à travers le projet, on aura de l'argent. Quand on a construit, par exemple, les grandes infrastructures du côté de l'Occident, ce n'est pas à l'argent qu'on a pensé en premier. On a d'abord construit, et après, on a remboursé les dettes, puisque le tourisme s'est développé. Donc, en Afrique, c'est le même projet qui est replicable à travers la question du financement. Mais c'est aussi d'intéresser tous les bailleurs de fonds qui pourraient voir là une aubaine pour pouvoir développer leurs activités et surtout leur rayonnement à travers l'Afrique et le reste du monde.
Kevin Nchanda, chercheur résident de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura. Raga FM, 90.5 Kisangani. Tabou FM, 96.6. Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur 11.